Stadium Ligue 1, le podcast sur l'actualité du championnat de France de football.
Tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Stadium Ligue 1, le podcast qui parle du meilleur championnat d'Europe, du monde et bien sûr de la galaxie. Très content de vous retrouver pour cette 22e journée de notre beau championnat. Les journées avancent petit à petit, on se rapproche de la fin. Ça avance à une vitesse folle. Aujourd'hui, je suis accompagné de mes deux compères, de mes deux amigos. Déjà Steve, welcome back. Ça fait longtemps, Steve, comment tu vas ?
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Très heureux de revenir après une très longue absence professionnelle. Très heureux de parler Ligue 1 avec vous.
Nice, nickel, content de te retrouver aussi, et puis après un compère que vous connaissez bien, hein, sa belle voix suave et sensuelle, Alexis, comment tu vas ?
Salut, ça va très bien, toujours là, toujours d'être content d'être là, par vent et marée, je donne toujours tout ce que j'ai pour toi Desti, et tu le sais.
Ah, c'est beau. Alors, aujourd'hui, moi, je vous propose un programme sympa. On va se concentrer sur deux matchs pour moi qui sont assez importants parce que c'est des équipes qui jouent le haut du tableau et qui ont des destins un peu, on va dire, qui se croisent. Donc, on va parler du stade de Reims qui va affronter le RC Lens. Et de l'autre côté, on va parler du stade brestois qui est en pleine bourre face à l'Olympique de Marseille. Alors tout de suite, on rentre dans le premier match, un stade de Reims face au RC Lens. Hein, donc je ne sais pas si vous, de votre côté, vous vous en souvenez, mais au match aller, si je ne me trompe pas, c'est le RC Lens qui s'était imposé face au stade brestois sur le score de RC Lens s'était imposé 2-0. De manière générale, Lens réussit plutôt bien face au stade Rémois. Donc, ils avaient gagné 2-1 l'année dernière lors de la saison précédente. Ils avaient fait match nul au match aller. Et puis, même si on remonte encore avant, ils avaient gagné 2-1 en 2022 à l'extérieur. Donc, Lens, et Lens aussi avait gagné à domicile au match aller en 2021. Donc, Reims, c'est quand même une équipe qui réussit plutôt bien à Lens, surtout que c'est deux équipes qui sont sur deux destins complètement, enfin en tout cas sur deux dynamiques complètement différentes. Lens qui fait son petit bout de chemin très discrètement, alors c'est pas très convaincant dans le jeu, on va en reparler, mais c'est une équipe qui avance et qui se rapproche des places européennes, tandis que le Stade Rémois, qui avait très bien commencé sa saison, elle a de plus en plus de difficultés à tenir le rythme du wagon de tête, du wagon de ses équipes européennes. Donc nous, ce qui va être intéressant aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est quels sont vos pronostics et votre vision du match. On va commencer avec toi, Steve. Steve, toi, qu'est-ce que t'attends de ce match-là entre Reims et le RC Lens ?
Avant toute chose, je pense que ça va être un très bon match de football. Je pense qu'on va pas trop s'ennuyer devant ce match. On a deux équipes qui sont relativement joueuses, deux équipes qui aiment bien avoir le ballon, deux équipes qui aime bien presser à la perte de balle. On a, comme tu l'as dit, un Reims de Will Steele qui après un très fort début de saison, perd un peu en rythme, tout en restant quand même une équipe très intéressante à voir jouer, même si les résultats dernièrement ne sont pas très très bons, hein, après une défaite 2-0 contre Lorient, après une défaite contre Toulouse, après un match nul à Nantes. Mais sinon, ça reste une très belle équipe. On connaît les faiblesses de cette équipe. On sait que la défense parfois pose un peu problème. On sait que régulièrement, il y a des assez gros problèmes à la finition. Hein. On l'a vu contre Lorient ou contre Toulouse. Hein. Ça vendange beaucoup devant. Et face à eux, on a une équipe lensoise qui reprend des couleurs, qui est en train de faire une Monaco, qui a commencé sa saison en bas des hors des pâquerettes et qui reprend progressivement vie. On a vu un excellent match en soi contre Strasbourg. On a vu aussi un très bon match contre Toulouse. On voit que ce 3-4-2-1 avec Costa en 10 porte ses fruits dernièrement. Donc je pense que ça va être un très bon match. Une très bonne attaque contre une très forte défense. Donc je pense que ça va être un bon match.
Ok. Ouais, on va revenir un peu plus sur les détails des deux équipes. Alexis, toi, t'attends quoi de ce match? Est-ce que tu penses que ça va être un bon match, un match ouvert, un match fermé? C'est vrai qu'on a deux belles équipes qui aiment jouer. Certes, on en a une aujourd'hui qui a beaucoup de difficultés hein, en la personne du Stade Rémois. De l'autre côté, on a un RC Lens qui est peut-être moins convaincant dans le jeu, mais qui est efficace et qui marque. Donc toi, quelles sont tes attentes par rapport à ce match?
Moi, je vais avoir un avis assez différent que notre ami Steve, parce que je pense que Reims et Lens vont se neutraliser dans leur dynamique similaire, on va dire, plus ou moins, parce qu'elles vont pas vouloir, enfin, aucune de ces deux équipes ne va vouloir perdre des points bêtement sur un contre ou sur des faits de jeu qui font qu'on peut facilement et rapidement perdre des matchs en Ligue 1. Donc je pense que malgré le fait que ce sont deux équipes qu'on aime voir jouer, qui ont un style de jeu très alléchant avec leur coach respectif qui impose leur jeu et qui impose, comme le disait Steve, le pressing, le fait de porter la balle au pied et de construire. Mais c'est aussi voilà, deux équipes qui se prennent assez facilement des trous en défense. Et je pense que ce match-là sera le match parfait pour que les deux équipes puissent travailler ces petits manquements en défense. Et donc voilà, je m'attends pas à un très gros match offensif, mais plutôt à un gros match défensif en fait de chaque équipe.
Ok, très bien, très très bien. Bah,
Un
juste,
match de milieu.
on va rebondir sur ce que tu dis, Alexis. On va commencer avec du coup avec Reims. C'est vrai qu'il y a un truc qu'on aimait bien en début de saison chez Reims et que moi-même hein, j'ai reconnu, c'est qu'ils avaient cette diversité de buteurs. C'est qu'on avait l'impression un peu que le danger pouvait venir de partout, que chaque joueur voilà se complétait, que quand c'était pas l'un qui marquait, c'était l'autre, etc. On voyait des Thomas, on voyait Abdelhamid, Ito, dans une moindre mesure Darami. Alors on sait aussi que Reims a perdu des joueurs qui sont partis à la CAN, comme Ito, Nakamura et d'autres. Enfin, quand je dis CAN, c'est la Coupe d'Asie des Nations et d'autres qui sont partis à la CAN, à la Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont aussi perdu un de leurs joueurs qui est parti au Stade Rennais. Donc, au final, est-ce que finalement c'est pas leur péché, enfin leur défaut à Reims, c'est ce qui leur manque et qui leur manque affreusement aujourd'hui. On va revenir sur la défense, mais c'est ce manque au final de buteur. Quelque chose qu'on avait peut-être adoré au début, mais au final, sur la durée, qui est très pénalisant. Toi, t'en penses quoi, Steve, de ça?
Ouais, c'est vrai que ne pas avoir un buteur, un mec qui te plante sa dizaine, quinzaine de buts, peut être problématique. Après, Reims, c'était une équipe qui, depuis 1 ou 2 ans, est un peu en sur-régime, on va dire, qui concrétise beaucoup, qui marque plus que ses expected goals, parce que c'est une équipe voilà, qui est très offensive, qui presse beaucoup, qui tire beaucoup. Chaque match avec Reims, on est à plus d'une dizaine, quinzaine, même parfois vingtaine de frappes par match. C'est une équipe qui tire beaucoup, donc ça tire parfois un peu de n'importe où. Donc du coup, on se dit, ouais, est-ce que c'est lui qui va marquer, celui qui va marquer? Donc c'est vrai que ça peut être problématique de ne pas avoir de grands buteurs, mais pour l'instant, ça marche un peu en fait. C'est ça qu'il faut se dire. Ils vont sûrement recruter un buteur la saison prochaine parce qu'ils en ont grandement besoin. On voit les points qu'ils perdent un peu bêtement sans vrai buteur. Donc je pense que en préparant l'après Will Steele qui va sûrement partir l'été prochain parce qu'il est courtisé par beaucoup d'équipes, il faut aussi penser à un bon buteur et ça travaille très bien à Reims, donc je pense que ça va être chose faite le prochain mercato.
Ok. D'accord, intéressant. C'est intéressant tout ça. Toi, Alexis, tu veux donner ton avis là-dessus ou t'es plutôt d'accord?
Ouais, bah, justement, oui, la saison est encore longue et il leur faut un buteur. Donc oui, comme Steve dit, ce sera l'été prochain. Mais cet hiver, justement, j'étais un peu surpris qu'il ne prête. Bon, déjà, ils ont fait un recrutement assez léger. Après, bon, avec les moyens du bord, j'imagine. Mais ils ont surtout renforcé la défense et le milieu. Enfin, ouais, le secteur défensif, du coup. Avec Stambouli, une gloire de la Ligue 1, qu'on connaît très bien. et Hakimi, donc un défenseur espagnol. Alors que techniquement, la défense, elle, c'était pas vraiment le secteur où ils prêchaient jusque-là. Après, on sait voilà, qu'ils ont perdu Matusiwa, ils ont perdu Wilson Esbrand. Mais voilà, ils ont encore beaucoup de défenseurs, beaucoup de joueurs qui savent défendre, qui savent tenir les murs, alors qu'il faut quelqu'un pour concrétiser toutes les actions aussi qu'ils ont. Donc je rejoins ce que Steve disait.
Ok, mais est-ce que au final, alors peut-être que je vais être dur un peu avec cette équipe, mais est-ce qu'au final cette équipe n'est pas à sa place? Parce que quand tu regardes, alors certes c'est une équipe qui a très bien commencé, mais quand on regarde un peu sur les derniers matchs et sur les différentes formes, juste pour vous donner un petit aperçu sur les 4 derniers matchs, hein, si on compte que les 4 derniers matchs, Reims c'est 12e. Si on va sur les 6 derniers matchs, Reims c'est toujours 12e. Si on va sur les 8 derniers matchs, c'est 10e. Et sur les 10 derniers matchs, c'est 12e. Au final, est-ce que c'est pas une équipe qui est tout simplement à sa place aujourd'hui?
Je suis d'accord qu'ils ne sont pas forcément à leur place dans le top 8, top 6, etc. Parce que déjà vu qu'on, si on regarde la dernière victoire de Reims contre Lens, c'était en 2017. C'était à l'époque de Siebatcheux, si vous vous rappelez de lui.
Oula, ça fait long.
La saison. Où... ben oui, ça fait long. Ça fait 5 ans. Ça fait 7 ans. Mais c'est justement l'année où Reims termine champion de Ligue 2 pour remonter en Ligue 1. Et Lens qui termine dans les bas-fonds de la Ligue 2. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Lens a eu une évolution beaucoup plus positive par rapport à Reims depuis ce match-là. Et en effet, je pense que Reims n'est pas forcément autant à sa place que Lens dans le top, top 8. Alors là, ils sont 9e. Voilà, s'ils finissent entre la 9e et la 12e place, je ne serais pas choqué.
Ok. Toi, Steve?
Moi, je trouve qu'ils sont dans leur place, dans ce ventre mou hein, du championnat. Parce que, voilà, Reims, ce n'est pas une équipe qui a beaucoup de moyens, mais c'est une équipe qui travaille très bien. On l'a vu sur les 3-4 dernières années, hein, ça recrute intelligemment, ça fait confiance à des joueurs, ça relance, ça n'a pas peur de relancer des joueurs en prenant un peu ce défi en fait de relancer des joueurs. Donc ouais, Reims, c'est à sa place entre ouais comme le disait Alex entre la 8e et la 12-13e place quoi. C'est ce ventre mou de championnat, c'est là que Reims doit être malheureusement parce que ils n'ont pas eu l'investissement comme l'a dit Alex que Lens a eu, n'ont pas eu l'intelligence de recrutement ou même les performances actuelles d'un Brest, même si c'est un peu trop tôt pour parler de performance et de modèle brestois, et je pense qu'on en parlera après, mais ouais, Reims, c'est à sa place, quoi. Puis ça restera là, et si ça continue de travailler intelligemment, ça restera à cette place-là pendant quelques années.
Ok, ouais, donc nos stress...
Ce qui fait peur avec Reims, c'est l'après Will Steel, en fait. Ce qui fait un peu peur avec Reims, c'est l'après Will Steel, qu'est-ce qu'ils vont faire après Will Steel, parce que ce projet est beaucoup trop centré sur lui, et ses performances, la motivation de son groupe. Donc, est-ce que Reims ne va pas descendre et être en perdition en perdant Will Steel? C'est la question qu'on peut se poser. Et on se la posera cet été lors des magnifiques épisodes d'été de Stadium Ligue 1. Ne vous inquiétez pas, on en parlera.
Ouais, tu voulais dire,
je pense qu'ils auront un gros budget du coup, après le départ de Will Steel, s'ils dépensent 20 000 euros par semaine. Qu'il puisse entraîner l'équipe, vu qu'il n'avait pas tous les diplômes pour le moment. S'il part, voilà, ce sera une grosse augmentation de budget pour les transferts.
Bah après, quand même, Reims, ils ont fait un recrutement qui était assez ambitieux. Ils sont allés chercher, enfin, pour une équipe de milieu de tableau, ils sont quand même allés chercher un Nakamura à 8 millions, un Darami à 8 millions. Ils avaient vendu Hugo Etiquité au PSG pour à peu près, je sais plus si c'était autour des 40-60 millions, il me semble, quelque chose comme ça. Ils vont chercher un Okoumou à 4 millions, Thomas 5 millions, enfin. Ils ont quand même lâché des petits billets, puisque là, si on compte, rien que sur le mercato d'été, ils ont dépensé 47 millions quand même. C'est
Parce qu'il
pas.
y a eu la vente d'Ekitike. Parce
Bien
que
sûr.
quand tu quand
Bien
on
sûr.
sait comment ça marche les transferts, c'est quand tu vends un joueur, c'est plus 70 au-dessus dans la balance, mais pour quand toi tu achètes, c'est étalé sur un contrat. Donc en fait, ils ont pu investir l'argent d'Ekitike sur des joueurs, et ça marche parce que Nakamura fait une très bonne saison. Okoumou aussi, pardon. Teddy Thomas est peut-être le meilleur joueur de cette équipe rémoise. Ça se débat avec Nakamura, mais le recrutement est bon. Mais c'est clair que les moyens de Reims ont été boostés par la vente d'Ekitike, et c'est pas quelque chose qu'on aura chaque année en fait.
Ok. Du coup, bah, Reims reçoit ce RC Lens, un RC Lens qui a une destinée qui est complètement différente, parce que ce qui est intéressant avec le RC Lens, c'est que si le championnat avait commencé à la sixième journée, aujourd'hui, Lens serait deuxième du championnat derrière le PSG. C'est l'une des équipes qui a la meilleure forme de ce championnat de France. C'est vrai que Lens a très mal commencé, hein. On se souvient des premières journées, et j'étais le premier à les descendre parce que voilà, c'était pas très bon et c'est vrai qu'il y avait cette déception, il fallait digérer certains départs comme Fofana et Openda. Il y a toujours un Elie Wahi, alors même s'il apporte beaucoup dans le jeu, on attend quand même qu'il stat un peu plus en termes de joueurs. Mais après, moi, ce qui me plaît aujourd'hui avec ce RC Lens, hein, et vous me direz vous ce que vous en pensez, c'est que j'ai l'impression que Aize, il a enfin trouvé cette stabilité, il a enfin trouvé une sorte de 11. Alors peut-être que je me trompe, hein, mais on a un joueur justement là depuis début 2024 comme Diouf qui s'est réveillé, qui a notamment marqué, qui est de plus en plus titulaire. On voit qu'il fait confiance aux jeunes avec El Aïnaoui, hein, toujours mon petit chouchou. Hein, s'il y a un podcast où je le cite pas, celui-là, je pense que la terre s'arrête de tourner. Mais c'est surtout devant, on voit qu'il a ce trio-là sur les trois derniers matchs, notamment avec un Pereira da Costa qui a marqué sur les trois derniers matchs. Donc Pereira da Costa, Wai Sotoka, qui fonctionne très très bien. Donc, est-ce que pour vous, Lens, aujourd'hui, ils ont la formule et ils sont sur une très bonne lancée? Alors, je ne vous dis pas qu'ils seront inarrêtables, on ne sait pas avec le foot, mais en tout cas, là, c'est bon, la boule de neige, elle est lancée, elle va faire que grossir et grossir. Alors, on va commencer par toi, Alexis.
Oui, je pense, hein. T'as très bien énoncé les choses. Ils ont enfin trouvé une solution qui permette à Sotoka et à Wai de prendre leur place et justement jouer leur jeu qui lui aurait propre et du coup jouer ensemble aussi. Et voilà, après ils sont tombés sur une bonne pioche aussi avec Pereira da Costa qui commence à planter, alors qu'il n'était pas forcément là pour planter à la base, il était juste là pour pallier. C'était qui quand je sais plus qui c'était, mais quelqu'un s'était blessé, non? Il y a quelques semaines, et c'était comme ça qu'il s'était retrouvé titulaire, ou à jouer des bouts de match, et après à devenir titulaire. Mais je trouve que c'est bien, justement, et d'avoir trouvé cette solution et de rester dans ce système-là de Hayes. Parce que tant que ça marche, autant surfer sur la vague jusqu'au bout. Après, il faudra bien sûr penser au renouvellement aussi. Vous savez bien, toutes les quelques semaines, c'est bien de changer un peu de dispositif pour brouiller les pistes, pour pas que les autres équipes puissent calquer leur jeu à ce qu'ils attendent de ce que le Lens fera.
Ok. Ouais, mais il me semble que celui qui se blesse au moment où Da Costa rejoue un peu plus, bah à ce moment-là, t'avais Saïd qui était un peu blessé au même moment que Da Costa, t'as Wai aussi qui a été un peu absent, qui avait pris un carton rouge aussi notamment, et au final, il a quand même pris sa chance. Il a pris sa chance et il l'a prouvé. Et puis on a vu certains joueurs qui ont disparu aussi sur ces dernières journées, comme Fulgini et Thomasson qui étaient beaucoup plus utilisés en début de saison. Toi, Steve, cette équipe lensoise qui va affronter cette équipe rémoise, toi, tu étais plutôt confiant par rapport à leur jeu. Qu'est-ce que tu penses, voilà, de ce 11 aujourd'hui qu'a mis en place Aize?
Je trouve que c'est très stable. Il n'y a pas vraiment de gros points faibles à cette équipe lensoise dans sa disposition actuelle. On voit que Sotoka et Wai, c'est très complémentaire. On l'a vu hein, sur son premier but hein, contre Strasbourg, l'enchaînement Costa-Sotoka, Sotoka-Costa, Costa-Wai, c'était. En fait, les mecs, ils parlent le même
C'était
football, t'as
beau.
l'impression. C'est.
Ouais.
Ça se comprend intuitivement, les mecs parlent le même football, donc en fait, du coup, c'est là que les mecs prennent le plus de plaisir et qu'ils sont le plus heureux sur le terrain parce qu'il sait que le mec il va faire l'appel, il n'a pas besoin de lui demander de faire l'appel, ils se trouvent machinalement. Donc, comme tu disais, Wai ne score pas, mais il a apporté énormément dans le jeu. Le meilleur buteur lensois en début de saison, c'est Sotoka. Donc, en fait, cette équipe, tout le monde peut marquer. Tu as Sotoka qui en marque 4, je crois, sur le début de saison. Tu as Wai qui a 3 ou 4 aussi. Costa qui marque beaucoup. C'est très fort en fait, c'est très stable. Derrière, Danso reprend un peu de couleur qui, en début de saison, était un peu en deçà. Ce milieu, cette charnière, Diouf, Aïnaoui, c'est très stable aussi. Sur les côtés, ça change entre Aguilar, Frankowski, Chavez, etc. Brice Samba, Impérial. Non, cette équipe lensoise, en fait, là, elle a pris son rythme de croisière, en fait. C'est très très fort, ça prend son rythme, ça enchaîne les matchs, ça enchaîne les résultats. Pas forcément toujours le meilleur football, hein, on l'a vu contre Nantes, hein, c'était pas non plus un très très gros match de football contre Nantes, mais ça gagne les matchs, ça fait le résultat. C'est sixième, ça va jouer l'Europe la saison prochaine encore. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire en fait, c'est juste propre, c'est très propre ce que fait Lens.
Ok, ouais, pour vous, Lens, ça joue l'Europe l'année prochaine?
Largement.
Oui.
Largement.
Largement, je sais pas, mais oui.
T'as Lille qui est un peu en surchauffe aussi, hein, t'as l'impression, même si ça joue très bien. Brest va potentiellement encore perdre quelques points. Donc Lens, il y a moyen de jouer la cinquième, voire même la quatrième place.
Ok. D'accord, ouais, plutôt confiant. Après, c'est vrai que c'est dur de
Je
vous
crois que ça va,
donner
ils sont
tort
à 4
vu.
points de Nice.
Ouais, non, ils sont pas très loin et
Ils
c'est
sont
pour
à
ça que
4 points.
c'est dur de vous donner tort parce que c'est vrai qu'ils sont sur une dynamique qui est assez impressionnante, hein, même si dans le jeu, moi, ils me convainquent pas forcément. Mais après, ils sont efficaces, ils gagnent, donc c'est vrai que bah, à partir du moment où tu gagnes, bah t'as raison. Et ils sont qu'à 4 points de Nice et Nice et Monaco, c'est vrai qu'ils sont beaucoup de difficultés devant à imposer un second rythme hein, parce que voilà il y a le PSG et c'est vrai que Nice et Monaco n'ont pas réussi à se détacher donc c'est vrai que tout est possible aujourd'hui pour Lens et c'est vrai que bah voilà ils sont aussi beaucoup plus stables il y a quelque chose que tu voulais rajouter peut-être sur Lens Alexis?
Non, pas forcément, juste que c'est une machine à points, comme tu dis. Voilà. On peut être sûr qu'ils vont marquer des points jusqu'au bout de la saison. Peut-être qu'ils
Ok.
vont lâcher quelques défaites aussi par-ci par-là, mais voilà. Ils vont marquer des points, donc ils seront dans le bon wagon. Ils
Ok.
vont se battre jusqu'au bout.
Ok. Bon bah alors on va enchaîner avec les pronostics, hein. On va pas perdre plus de temps que ça. Bah allez Alexis, vu que c'est toi qui avais la parole, toi tu t'attends. Alors déjà juste pour te rappeler quand même, pour te donner toutes les informations hein, avant que tu donnes ton prono en termes d'absence, c'est toujours les mêmes absents du côté de Lens. Donc c'est-à-dire Cabot et Machado hein, voilà, des absences assez longues. On a le retour notamment de Thomasson. On sait que Lens jouait aussi une compétition européenne. Est-ce que alors avant que tu te lances dans le score, est-ce que tu penses que ce match européen peut peser aussi sur le 11? On peut voir l'équipe tourner ou il va quand même essayer de garder une stabilité puisqu'on rentre quand même dans une dernière ligne droite au niveau du championnat, là. Il reste, au final, il reste plus tant de journées que ça. Il en reste 11 exact, 11 ou 12, il me semble, si je calcule bien. Donc, ça va vite, quoi. Non.
Ouais, c'est vrai. Et donc justement, c'est pas à l'heure de prendre de risques et tout changer d'un match à l'autre. Donc je pense ils vont rester sur une même idée. Mais comme je disais tout à l'heure, faut apporter quelques petites subtilités à cette idée du jeu et à son 11, etc. Donc après leur match de cette semaine en Europe, je pense pas qu'il y aura de très grosses modifications. Mais bon, et en fait, je vois la même équipe peut-être. Peut-être avec un petit non, Palice Mendy qui pourra revenir sur le terrain en tant que titulaire après son retour du monde. De la CAN,
De la
pardon. C'est
canne.
presque la Coupe du Monde. On
Presque,
y est presque.
presque.
Et Thomasson aussi, j'aimerais bien le retrouver sur le terrain aussi, parce que j'aime bien ce petit,
Ok,
cet ancien Nantais.
ok, ok. Et du coup,
Mais voilà,
niveau...
pour faire souffler un petit Sotoka, par exemple. Parce que Sotoka, c'est le joueur qui a été le plus utilisé
Ouais,
par Franck Riedi, je
pareil,
crois,
quasi.
à une cinquantaine de minutes près. C'est celui qui joue le plus et du coup il doit être fatigué. Donc voilà, je le ferai souffler peut-être un ou deux matchs avant de le faire terminer les 10 matchs en trombe.
Ok. Et sinon, niveau du coup score, tu t'attends à quoi?
Et pour le score, je vois une victoire du RC Lens. Je vais dire peut-être 2-0, oui, avec un but de Thomasson et un autre de Pchemek Frankowski.
Ok, ah ouais,
Ouais.
un petit but de Thomasson pour
Un
ce
petit coup
retour.
franc. Ouais, un petit
Si.
coup franc.
Ok. Et toi, Steve, de ton côté, tu t'attends à quel type de score pour ce match-là?
Je regardais là, juste pendant qu'Alex parlait la feuille de match contre Fribourg. Et les seuls deux changements notables dans le 11, c'est Aïdara à la place de Medina, qui joue contre Fribourg, et Frankowski à la place de Chavez. Donc du coup, il a reconduit le 9, la colonne vertébrale, on va dire, parce que ça reste une Coupe d'Europe très, très importante pour Lens. Donc je pense que ça va faire tourner un petit peu. Surtout devant, hein, sachant que derrière, tu as un gros rush de plusieurs matchs très. Très difficile pour Lens. Donc je pense que ça va faire tourner un peu, mais je vois une victoire lensoise. Je dirais 2-1 pour Lens, avec un but de Wally et je sais pas, peut-être un but sur corner, parce que Lens sont relativement bons sur coup de pied arrêté, donc un but de Danso. Et côté Rémois, un but de Thomas.
Ok. Ouais, c'est vrai que Lens, ils vont enchaîner là, puisque là, t'as Reims ce week-end. Après, ils enchaînent avec Monaco. Ensuite, ils enchaînent avec Lyon. Lyon qui est pas facile à jouer en ce moment, hein, qui est sur une sacrée bourre. Et ensuite, ils ont le retour de Fribourg, il me semble, si je me trompe pas. Ouais, et derrière, t'as Brest. Donc, c'est vrai que là,
Et
jusqu'au
après
début du
Nice,
mois de
là
mars.
ils enchaînent. Ouais.
Ouais, là, de février-mars, c'est un sacré calendrier. C'est même, moi, je pense que c'est assez décisif même pour leur saison. Hein. S'ils arrivent à sortir de là avec au moins 3-4 victoires, ils auront quand même assuré pas mal du taf. Mais c'est vrai que moi, j'ai quand
Pourtant,
même vu.
là, je pense qu'il va faire tourner. Hein. Il va faire tourner parce que là, tu as un match contre une équipe moins importante, on va dire, hein, sans manquer de respect au Rémois, mais une équipe de milieu de tableau, alors qu'après, tu enchaînes ton retour d'Europa. Après, tu enchaînes Monaco, Lyon, Brest. Donc, je pense que s'il y a un match à faire tourner et reposer un peu les cadres, c'est ce match contre Reims. Donc, je pense que Sotoka ou Wai, ça va tourner. Peut-être Costa aussi, et au milieu de terrain, peut-être un Guilavogui, etc., qui pourrait jouer. Donc, pour faire tourner et reposer les cadres.
Ok. Ouais, moi je vais vous suivre aussi. Hein. Moi je pense que au vu des deux dynamiques en ce moment, Lens a l'air quand même assez intouchable. Ils sont quand même sur une bonne maîtrise. Je vais même aller être osé. Je vais même dire 3-1 pour Lens. Je vois bien un but. Alors, est-ce qu'on aura un jamais 304 pour Da Costa? Allez, on va essayer. Je vois bien un but. Non, allez, cette fois, je vois bien un but de Sotoka, d'Acosta, et je verrais bien un but de Diouf, côté Lensois et côté Rémois. Pourquoi pas un petit but de Nakamura. But de Nakamura. Ok, nickel. Bon, on va passer au match suivant. Alors, le deuxième gros match de cette journée. Enfin, le Stade Brestois face à l'Olympique de Marseille. Alors, pareil, c'est deux équipes qui sont sur deux dynamiques différentes. Le Stade Brestois qui est invaincu depuis 4 mois. Qui est invaincu depuis 4 mois, ce qui est assez énorme. En championnat, face à lui, on a l'Olympique de Marseille qui vit des moments beaucoup plus troubles, qui a du mal à gagner, qui a fait un match nul face à Metz, pardon, le week-end dernier. Certes, en termes de confrontation entre l'OM et Brest, on a Marseille qui avait gagné 2-0 au match aller, hein, c'était en tout début d'année, au mois d'août. Les années précédentes, ça reste quand même, allez, avantage Marseille. C'est vrai que l'année dernière, Marseille avait perdu 2-1 au match retour face à Brest à domicile. Mais sinon, de manière générale, c'est toujours l'OM qui l'a emporté, sauf une exception en 2021. Mais de manière générale, c'est toujours l'OM qui l'a emporté face au Stade Brestois. On a quand même des équipes qui, voilà, ont aussi vu leurs joueurs revenir des différentes compétitions internationales. Côté Brestois, on a très peu d'absents. On aura Hamavi qui est toujours absent. Satriano, pour l'instant, qui est incertain. Mais par contre, on aura l'absence de Bizot qui a pris un carton rouge le week-end dernier et de Camara. Et du côté marseillais, donc voilà, toujours les mêmes absents aussi, hein, que ce soit Nadir, Rongier et Pape Gueye. Murillo et Veretout incertain, c'est pas pour l'instant. Gigot suspendu parce qu'il a pris un carton rouge. Par contre, on devrait voir le retour de Chancel Mbemba et de Kongobia. On va commencer par toi, Steve, tout de suite d'entrée.
Direct, mon pote.
Aujourd'hui, à direct. On va commencer avec. Mais par contre, on commence avec le Stade Brestois. Donc ça va. On
Ok.
parlera de Marseille après. Aujourd'hui, le Stade Brestois, pour toi, est-ce qu'il est juste inarrêtable? Est-ce que c'est le genre d'équipe qui vole, qui touche plus le sol, un peu comme on a pu voir avec d'autres équipes des années précédentes, hein? C'est vrai qu'aujourd'hui, notre exemple, en tout cas l'exemple le plus récent, ça va être le RC Lens. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce Brest-là te fait penser à ces RC Lens, dans le sens où tout leur réussit un peu et ils vont réussir à décrocher ces places européennes?
Inarrêtable et qui vole, je sais pas. Parce que on l'a vu, hein, ils font certes un énorme résultat contre Paris, mais derrière, ça enchaîne deux matchs nuls relativement décevants, hein, contre des équipes, contre Clermont et contre Brest, contre Nice, pardon. Contre Nice, c'est certes un bon résultat, mais contre Clermont, c'est totalement décevant, sachant le niveau catastrophique de Clermont. Mais c'est sûr que c'est ce genre d'équipe qui. Et un peu injouable en fait. Ce genre d'équipe, en fait, tu sais jamais d'où ça va venir. Les mecs te sautent à la gorge dès que tu as le ballon, parce que justement, ça fait partie de leurs armes de presser très haut et très très fort. Ils ont des joueurs d'expérience qui connaissent la Ligue 1, qui savent jouer au football, hein, avec les Smelou, avec Lala. C'est une équipe qui est la quatrième meilleure attaque de Ligue 1, qui est la troisième meilleure défense de Ligue 1. Execo. Donc c'est vraiment une très bonne équipe qui est un peu en sur-régime. Hein, les stats avancées le montrent. Ils dépassent un peu leur expected goals et leur expected goals against. Ça concède quand même relativement peu de tirs, mais ça marque pas beaucoup non plus. Donc c'est en fait une équipe assez difficile à lire. C'est une équipe sur deux phases qui peut te faire quelque chose d'extraordinaire devant et qui peut t'enchaîner trois passes et être devant le but, mais derrière ils prennent un peu l'eau défensivement aussi parfois. Enfin, c'est une équipe vraiment bipolaire, on va dire, cette équipe brestoise, mais qui peut faire mal à cette OM très très malade.
Ah, mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai que Brest, on les attendait pas du tout ici, hein, même s'ils font un bon début de saison. C'est vrai que comme certaines équipes, bah, comme on peut le voir avec Reims, on s'attendait peut-être voilà ce coup de mou de la deuxième partie de saison et on verrait des Cador voilà créer l'écart, prendre le dessus. Au final, ils sont toujours là, ils sont toujours derrière le duo Nice-Monaco, ils tiennent bien. Toi, Alexis, est-ce que tu es voilà, comme Steve, un peu plus mesuré par rapport à cette équipe brestoise ou pour toi, ils sont inarrêtables?
Alors, très mesuré, je veux dire. non, mais quand on regarde... Brest est une belle équipe, je suis d'accord, pour un beau 11. Et la plupart de l'équipe, voilà, je les adore, ces joueurs avec, comme disait Steve, Lala, Mounier, Les Smelou, des joueurs que j'adorais regarder jouer il y a quelques temps. Mais là, cette année, ça fait 6 mois qu'ils marquent beaucoup, qu'ils jouent bien, qu'ils prennent plein de points. Mais ils ont pas beaucoup de profondeur de banc. Et là, la saison commence à devenir longue, je pense. Comme tu disais, il reste 10, 11 matchs. Et c'est maintenant ou jamais que tout va se faire, je pense. Et ça va être compliqué de garder cette tendance jusqu'au bout, surtout sachant voilà, qu'il n'y a pas beaucoup de banc pour faire tourner, pour faire souffler les joueurs. Après, je sais, ils ont plus la Coupe de France. Ils jouent, bien sûr, ils jouent pas l'Europe. Mais même quand tu vois leur calendrier, c'est pas donné non plus. Et pour ce match en précisément, il y a aussi, faut pas oublier Marco Bizzo qui s'est pris un rouge la semaine dernière et que leur gardien numéro 2 n'a pas vraiment encore joué avec l'équipe. Donc je sais pas ce que ça va donner. Oui. Alors, j'espère que ça peut le faire pour eux, bien sûr, parce que je ne serai pas là à espérer du mal de nos compétiteurs. Mais oui, le mercato d'hiver a été très léger. Enfin, très léger, ils ont pris personne. Ils ont pris un joueur de l'ASM, mais un joueur jeune qui n'est pas forcément encore prêt à être titulaire ou à garder sa place. Et voilà, il n'y a pas de nouveau jus en fait. Et je pense que, comme partout dans le foot, au bout d'un moment, toute dynastie ou toute tendance doit s'arrêter un jour. Et je pense que ce week-end, ce sera l'heure pour Brest. Après, je sais que ça fait quelques fois que je dis ça aussi. Hein, pour Brest. J'attendais toujours ce moment. Ça fait plusieurs fois que je dis ça. Mais au bout d'un moment, ce sera bon. Au bout d'un moment, j'aurai raison.
C'est ce que j'allais te dire en plus.
C'est vrai que tu parlais de la profondeur de banc côté Brest. En fait, sur tous les matchs de Ligue 1, c'est les mêmes 11 qui ont commencé. La disposition a changé. On était c'est soit du 4-3-3, soit du 4-2-3-1, mais c'est toujours les mêmes 11 joueurs. T'as très peu de remplacements durant les matchs parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas cette énorme profondeur de banc. Donc ouais, c'est vrai que les organismes pardon peuvent être un peu mis à rude épreuve déjà. Je pense que la trêve hivernale leur fait beaucoup de bien. Ils ont un calendrier assez allégé parce qu'il y a plus la coupe, mais c'est vrai que le calendrier à venir n'est pas le plus simple pour eux non plus. Donc ouais, cette équipe brestoise tombera et perdra des points à un moment. Et c'est là que justement Lille et Lens devront en profiter.
C'est vrai que ouais, quand je regarde les différents effectifs de Brest, tu retrouves souvent les mêmes noms. Et t'as souvent, sauf quatre blessures ou absences pour voilà, comme là on a eu la Coupe d'Asie et la Coupe d'Afrique. Mais sinon, c'est souvent les mêmes joueurs qui sont sur le terrain. On va retrouver bah, du Pierre Lesmelou, on va retrouver du Magnetti, on va retrouver du Camara, Kenny Lala, Brassier, Chardonnay en défense centrale. Et puis devant, c'est du Del Castillo, Steve Mounier qui sont très souvent là, ou encore du Ledouaron et on a vu aussi beaucoup de Satriano, donc c'est vrai que, et c'est peut-être aussi ça leur force, mine de rien, à Brest, c'est leur stabilité, c'est le fait d'être parti sur un 11 qui ne bougeait pas. Alors, ils ont beaucoup de chance parce que, au final, il y a peu de blessures. Il y a peu de blessures et c'est bien pour eux. Par contre, ce qui m'a surpris, c'est que Brest, c'est quand même une équipe qui prend beaucoup de cartons jaunes pour très peu de cartons rouges. Ils ont pris 49 cartons jaunes pour deux ou trois cartons rouges. Alors, je sais pas comment ils s'en sortent pour pas avoir plus de joueurs.
Ils font tourner. Ceux qui font pas le remplacement, ils font les remplacements pour les cartons jaunes et ils disent. Ok, cette fois,
Ah ouais,
c'est jamais trois fois le même en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas de, il y a pas de carton rouge qui sort.
Pierre, tu le découpes ce coup-ci et puis après, c'est Camara qui le découpe, tu vois.
Ah, mais c'est impressionnant, je suis choqué.
Ils sont bouchés par intérim, tu vois.
C'était. Ouais, c'est impressionnant. Ils s'en sortent bien. Bref. Ouais, donc pour vous, cette équipe brestoise, mais vous pensez qu'elle va rester sur le podium quand même ou pas? Enfin, elle va rester dans les 5 premières places ou pas?
5 premières possiblement, podium non.
Ouais, bon après podium, ouais, ça peut être dur avec Nice et Monaco. Enfin, bon, PSG, on compte pas. Avec Nice et Monaco, ça peut être dur, mais 5e, ok. Ok. Et ce match face à Marseille, parce que ça se joue à domicile. Il faut savoir que Brest, ils ont perdu qu'un seul match à domicile. Attendez que je retrouve ça. Je me souviens plus contre qui ils avaient perdu. C'était contre le PSG. Sur un but de Mbappé en toute fin de match d'ailleurs. Mais ouais, donc du coup, Brest n'a perdu qu'un seul match à domicile. Vous pensez que là, à domicile, ils vont pouvoir battre ce Marseille ou pas, Alexis?
Non, je pense pas.
Parce que toi, Marseille, t'es dur avec Brest, toi. Toi, t'es dur, oui, avec Brest.
Je suis dur. Je suis jaloux. J'aime pas que ce soit Brest qui soit à cette place et pas Nantes. Alors qu'on partait du même niveau. Non, mais en toute sérieuxité, en tout sérieux, je pense que Marseille, on en parlera tout à l'heure quand on parlera de Marseille, je pense, mais ils auront beaucoup plus les crocs que Brest, sachant voilà, que Brest est à la fatigue. Et ok, ils ont perdu qu'un seul match à domicile, mais ça veut pas dire que c'est une forteresse imprenable. Bizarre.
Okay.
Je sais pas si vous me suivez dans ma logique, mais.
Ouais, tout à fait.
C'est pas. Ça fait pas peur aux équipes de Ligue 1 de venir jouer au stade brestois. C'est juste, ok, sur le terrain, au bout d'un moment, c'est Brest qui prend l'avance dans le score et qui impose leur jeu. Mais je pense pas que psychologiquement, Marseille arrive avec une peur de venir sur le terrain.
Ok. Bon, bah, du coup. Steve, je vais te lancer sur Marseille. Je pense qu'on a bien parlé de Brest. Voilà, comme on se dit, enfin comme on se l'est dit, hein, c'est deux équipes vraiment qui sont sur deux dynamiques différentes. Hein. Marseille, en ce moment, on sent qu'il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui va pas. C'est vrai qu'ils avaient une bonne période en fin d'année dernière où ils avaient enchaîné quand même des belles victoires face à Lyon, Lorient, Clermont. Mais là, en ce début d'année 2024, en Ligue 1, c'est, je parle bien que en Ligue 1, pour l'instant, c'est aucune victoire, et une défaite, notamment à Lyon, donc à l'extérieur. Aujourd'hui, Marseille, c'est un problème tactique ou c'est un problème technique? Est-ce que c'est le coach ou le problème, c'est les joueurs qui sont pas assez bons?
Je pense que c'est un peu des deux. C'est un peu le coach et c'est beaucoup les joueurs. C'est beaucoup les joueurs qui perdent leur couille sur un terrain de football. C'est beaucoup les joueurs qui n'ont pas l'intelligence et certains n'ont pas le niveau du tout pour être l'Olympique de Marseille. C'est beaucoup les joueurs qui n'arrivent pas à cadrer une frappe. C'est beaucoup les joueurs qui n'arrivent pas à mettre leur corps en opposition pour éviter de prendre des buts bêtes. C'est beaucoup de choses. Exactement, ouais. Comme dirait un très grand supporter marseillais, offensivement nul, sexuellement nul, défensivement nul.
Le grand philosophe.
Il y a tout. Exactement. y a tout. Y a Marseille, tout à l'heure, tu parlais un peu de ce déplacement à Brest qui n'est pas une forteresse imprenable. Mais Marseille est la deuxième pire équipe à l'extérieur. Marseille, cette saison à l'extérieur, c'est 10 matchs, une seule petite victoire, 4 nuls et 5 défaites. C'est ridicule. Ça n'arrive pas à cadrer une frappe, on ne sait pas mettre un but. J'attends vraiment avec impatience le retour de Veretout, le retour de Mbamba, de Chancel, le grand Chancel qui potentiellement pourrait jouer, mais d'après les dernières infos des journaux marseillais, ne devrait pas jouer contre Brest. Mais en fait, Marseille, on sait pas jouer au foot, t'as l'impression. C'est devant, ça va très vite, ça tire beaucoup, mais ça marque pas de but. Donc c'est rigolo, Aubameyang qui égale des records de buteurs en Europa League, ouais, mais derrière, tu sais pas tenir un score. Tu te fais revenir au score par Metz, tu perds à Lyon, tu fais 2-2 contre Monaco alors qu'ils sont à 10 tout le match. C'est ridicule. L'OM
Ils
est
étaient pas neuf.
ridicule et non, ils étaient
Ouais, ils étaient à
à,
10.
pardon, à 10, à 10 tout le match et en fin de
10
match, ils sont
contre
passés
11, ouais.
ils sont passés
Ouais.
à 9. Ouais. En
Ok,
fait,
après, on
la
passe à
carrière
9.
prend un deuxième jaune à la 80, 84, 85 par là. Donc, du coup, en fait, ils étaient à 10 tout le match, ils n'ont pas réussi à gagner quand même. C'est ridicule. Et je pourrais dire ça pendant 1 heure, donc je pense que je vais laisser la parole à Alex. Mais l'OM à la 8e place est totalement à sa place et ne mérite pas d'être plus que ça. Et quand j'en parlais en début de saison et en disant que l'OM pouvait faire une saison blanche et sans Europe la saison prochaine, on m'a un peu dit que j'abusais, etc. Mais on voit maintenant et voilà, j'avais raison. J'admets que j'avais raison, mais j'avais raison.
Ok. Du coup, Alexis, je rebondis sur ce que Steve a dit. L'OM est à sa place en ce moment? Huitième du championnat?
Oui, je suis d'accord. C'est dommage de dire ça parce que Marseille reste un ogre du foot français. Mais oui, ça fait trop d'années qu'ils achètent trop de Nantais et du coup, voilà, ça fait descendre dans le classement. Mais je rigole, mais c'est dur, hein, mais oui, enfin, le recrutement a été bizarre ces dernières années. Il y a eu plusieurs dynamiques très différentes. Des coachs qui prenaient et j'ai l'impression qu'ils ont un peu perdu leur projet c'est comment il s'appelait déjà le OM Champions
Le
Project
Champions Project.
voilà
Ouais,
ben, ils ont
tu peux
perdu
pas faire un
vue et
Champions
maintenant
Project
voilà
avec Merlin en fait.
ouais
Tu peux pas des
c'est
Champions
ça
Project avec Quentin Merlin et puis
c'est pour faire
des
la
profs de
magie
merde.
c'est pour la magie sur le terrain
ils sont trompés ouais.
mais oui pour finir voilà s'ils terminent entre la ouais c'est sixième grand max, mais oui, septième, huitième place et qui se font repêcher en Ligue Conférence, ça va, pourquoi pas. Ce sera leur seul espoir, je
Attendez,
pense.
attendez, moi j'ai quand même du mal à me dire. Alors, j'entends ce que vous me dites, hein, c'est vrai qu'on les voit jouer, on sent qu'il y a un truc qui cloche. Alors, c'est vrai que pendant un moment, voilà, il y a eu l'arrivée de Gattuso, donc tout un système à remettre en place, et puis c'est pas son équipe, faut qu'il s'adapte aux joueurs, etc. Et pendant un moment, on a cru que ça allait bien, là, en fin d'année 2024, ils étaient quand même sur, 2023, pardon, ils étaient quand même sur une bonne dynamique. Enfin, on voit le recrutement quand même qu'ils ont fait, ils ont pas fait non plus un recrutement de peintre, tu vois, les mecs, ils sont partis chercher un NDI quand même, qui était voulu en Angleterre, alors c'est pas
Il veut
le
repartir
top
depuis.
joueur. Ouais, mais c'était pas le top joueur, mais voilà, tu vois, c'était quand même un joueur qui avait quand même une bonne petite cote. Les mecs vont chercher un Lodi, bon, maintenant qui est parti en Arabie Saoudite, si je me trompe pas.
Ouais, ça va aller là. Ça va aller
C'est ça. Ils vont chercher un Sarr, t'as Kongombia, t'as Harit. Voilà, Aubameyang, on en a parlé. Là, on voit, ils ont recruté cet attaquant camerounais. Enfin, en fait, j'ai du mal à me dire que cet OM-là, avec les investissements qu'ils ont faits, bon, si on met les scandales et tous les problèmes de côté, que ce soit leur place, en fait, que huitième, ce soit leur place. Après, c'est vrai que quand tu les vois jouer, bah, tu dis où est le problème? Et même en interne, j'ai l'impression qu'il y a des soucis là. On en parlait
Il y a
la
des
dernière
soucis,
fois. Qu'est-ce qui s'est, enfin, il y a eu les problèmes avec Klose. C'était très bizarre ce qui s'est passé aussi avec Klose.
En fait, Gattuso est très, très mécontent de ce mercato hivernal. Il attendait beaucoup des arrivées pour compléter en fait l'effectif. Et le seul truc qu'on lui dit, c'est en fait un de tes joueurs que tu aimes bien et que tu fais beaucoup jouer, Renan Lodi, et ben en fait on va le vendre parce que pourquoi pas. Après on lui dit que oui, Klose pareil, si on reçoit une offre, on le vend. Il se plaint en conférence de presse qu'il veut un milieu de terrain costaud, box-to-box, qui parle le français. Et 3 semaines avant, enfin, façon de parler, j'exagère, mais 3 semaines avant, l'OM vend Guendouzi qui fait des prestations XXL à la Lazio. En fait, cet OM, c'est t'as un coach qui veut des joueurs et t'as Marseille qui avait ce profil et qui a tout revendu. C'est un entraîneur qui veut des guerriers, on lui donne des gamins de 18 ans parce que soit tes joueurs sont blessés et ça n'a pas été remplacé, soit ils sous-performent comme le fait Ndiaye, comme le fait Vitinha qui d'ailleurs, gros flop, est déjà reparti. En fait, c'est juste, ce coach n'a pas les joueurs qu'il a besoin et c'est pour ça que ça parle déjà de Gattuso qui quitte l'OM à la fin de saison. J'ai vu des infos passer hein, sur des pages de l'OM, donc après, ça vaut ce que ça vaut. Mais Gattuso aurait émis des volontés de partir et retourner en Italie parce que le projet ne lui plaît pas et on ne vient pas les armes pour réussir en fait.
Ah, mais là, le problème est quand même profond parce que tous les coachs là récemment qui sont passés par l'OM, tu as l'impression que tu as toujours ce même son de cloche qui revient, c'est on n'a pas les joueurs qu'il faut pour faire mieux. Après, enfin, je sais pas, moi je peux les comprendre dans un sens, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai du mal à m'expliquer. Puisque tu as quand même certains joueurs d'expérience qui sont là, comme par exemple un Aubameyang qui jouait dans les plus grands clubs d'Europe et même il a des difficultés. Ouais, bizarre. Donc, du coup, parce que pour rebondir ce que tu disais, Alexis, un peu plus tôt, parce que toi tu disais que la forteresse brestoise n'était pas imprenable, que l'OM pouvait peut-être faire quelque chose, mais au final, quand on regarde cette OM, est-ce que tu penses vraiment qu'ils peuvent faire quelque chose à Brest?
Ils sont allés chercher un match nul au fin fond de l'Ukraine hein, cette semaine. Enfin, c'était en Allemagne, mais bon, c'est pareil.
Ouais.
Non, mais oui, peut-être que ce match contre le Shakhtar peut être déclencheur pour l'OM. Ok, ils se font égaliser à la 94e minute, mais ils avaient pris l'avantage à la 90e. Donc, ils ont montré qu'ils en veulent. Le Shakhtar, c'est pas n'importe quelle équipe non plus. Bon, c'est pas le Shakhtar d'avant-guerre, mais ça reste une belle équipe hein, du football ukrainien et de l'Est de l'Europe en général. Donc, oui, pourquoi pas surfer sur ce nul et aller chercher le nul à Brest, peut-être,
Ok.
si ils arrivent pas à gagner. Ça me
Tu peux pas faire un match de Coupe d'Europe où tu as été nul. Tu peux pas?
Juste pour donner une petite stat, hein, parce que voilà, ce match contre le Shakhtar, c'est encore un match qu'ils auraient où deux fois ils mènent au score et deux fois ils se font revenir. L'OM cette saison, c'est 12 points perdus après avoir marqué les premiers. Donc c'est aussi une équipe qui, comme d'autres, n'arrive pas à tenir le score, quoi. Mais bon.
Le
Ok.
problème, comme l'a dit Riolo, je crois que c'est Riolo qui a dit ça hier, c'est que, ouais, Gigot, c'est bien, hein. Il est grand, il est costaud, il a l'accent marseillais, il a une grosse barbe, mais il n'a pas le niveau pour jouer à l'OM. Et c'est un peu le constat qu'on se fait sur beaucoup des joueurs qui sont dans ce 11, c'est Gigot, il a montré beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses, mais parfois, en fait, quand il prend l'eau, il prend l'eau. Il n'y a pas de... Il n'a pas de niveau moyen, c'est il a un niveau plafond ou un plancher. Il n'a pas de niveau moyen. Balerdi qui est nul, j'attends qu'une chose, c'est que Chancel revienne et puis que Balerdi aille cirer le banc. Merlin, c'est bien, mais à voir pour le reste. Le problème en fait à l'OM, c'est qu'on ne sait pas tenir un score, il n'y a pas de mental. Ça marque et derrière, ça se fait égaliser 2 secondes après. On a encore vu contre le Shakhtar. c'est tu marques, tu te fais égaliser. Tu marques, tu te fais égaliser 2 secondes, 2 minutes après sur une tête. Le mec est tout seul sur un corner. C'est ridicule. Et du moment que l'OM ne fixera pas sa défense centrale et n'aura pas des mecs de caractère, ça n'ira jamais. Et pour ça que Gattuso, qui exige ce type de profil, veut partir déjà.
Ok. Ok, ok. Du coup, c'est vrai que juste avant de parler des scores, dans les médias, on entendait que Gattuso avait envie un peu de faire le ménage, parce qu'on comprenait que apparemment certains joueurs bénéficiaient de certains statuts qui leur permettaient de jouer, et que voilà, il voulait faire un peu le tri dans cette équipe. Hein, alors. On l'a vu là en Coupe d'Europe, l'équipe n'a pas changé plus que ça. Enfin, en tout cas, j'ai pas plus l'impression que ça que l'équipe ait changé. On retrouve toujours un Aubameyang. Alors un Mbagna qui est là pour remplacer quand même Vitinha en pointe. Harit et Unai titulaires avec Kongombia, Berlerdi, Gico, Klose. Enfin, j'ai pas trouvé qu'il y ait beaucoup de changements sur ce match d'Europe. Est-ce qu'il y aura des changements sur ce match de championnat face à Brest? Alexis, je vais commencer par toi et je te laisse enchaîner direct sur ton score potentiel. Toi, en termes de 11, que ce soit de l'un côté ou de l'autre, est-ce que tu penses qu'il y aura des surprises? Parce que moi, je pense que la surprise, ça sera peut-être plus au niveau de la disposition, hein, peut-être revenir à une défense à 3. Mais est-ce que tu penses qu'il y aura des surprises et quel type de score tu t'attends et qui vois-tu gagner pour ce match?
Bah là, justement, Gattuso, il a fait le choix de mettre une défense à 5 et il s'est pris 2 buts. Donc, en général, quand on met beaucoup de défenseurs, c'est qu'on veut se prendre moins de buts. Donc, peut-être qu'il va essayer de repasser à une défense classique, on va dire, à 4. Mais, oui, ils vont. J'espère, en fait, qu'il va reprendre. Une formule qui marchait bien avec, qui marchait bien plutôt, avec, oui, Balerdi et j'espère Chancel, Merlin, Klose en défense, parce que il n'y a pas beaucoup d'autres choix, en fait. Et après, ouais, au milieu, Unai, je pense qu'il tient ça quand même sa place, après des joueurs comme Onana, il pourrait revenir aussi. Et en attaque, bah, oui, en fait, il n'y a pas beaucoup de changements. Il y a beaucoup de joueurs, mais il n'y a pas beaucoup de changements parce qu'ils sont tous problématiques plus les uns que les autres. Donc, après, voilà, tu mets Aubameyang, c'est sûr, mais après, sur les ailes, que tu mettes Ndiaye ou Sarr, c'est le même problème presque. Et de l'autre côté, Joaquin Correa ou Mbagna qui sont différents, mais voilà, qui n'ont rien promis non plus. Donc, je m'attends à retrouver un setup plus ou moins similaire au match de la semaine dernière, il y a 2 semaines. Pas contre le Shakhtar, donc pas à 5 défenseurs. Et surtout, Luis Enrique, il était titulaire cette semaine face au Shakhtar, mais je ne pense pas qu'il sera une nouvelle fois, parce qu'il n'a pas été très très bon. Et pour le score, j'hésite entre un tout petit 1-0 de Marseille ou un 1-1. Mais je pense que le 1-1, c'est mieux. Je vois Marseille marquer en premier et se faire reprendre dans les dernières minutes, comme d'habitude, et voilà, faire le petit 1-1.
Ouais, Brest, le pro du match nul.
Exactement. Mais Marseille aussi, au final. Parce que,
Marseille aussi.
Ouais, ils font beaucoup de matchs nuls. Hein. Ils sont déjà à 9. Hein. C'est le plus haut total de la Ligue. Hein.
Ah, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup.
C'est un tiers de leur match. Presque la moitié.
9 sur 21. Ouais, on est sur du. Ouais, presque la moitié. Ouais, pas un tiers. Ouais, je sais pas pourquoi tu. Bref. Tu m'as induit en erreur pendant un moment. Je me suis dit, quoi, 9?
Ah, attends. C'est les maths.
Ouais, c'est. Okay. Il est tard. Ouais. toi, Steve, pareil, même question. En termes de compo des deux équipes, tu t'attends à des gros changements et après enchaîner sur ton score. Qu'est-ce que tu attends comme score pour ce match?
Déjà, des changements côté Marseille, il va y en avoir parce qu'il y a suspension et parce qu'il y a absence. Donc, Gigo ne pourra pas jouer. Chancel, on ne sait pas s'il va jouer. Donc, du coup, c'est la question à 1 million, c'est qui va accompagner Leonardo Balerdi en défense centrale. Donc, soit ça va être un jeune, soit est-ce qu'il va replacer un latéral. Jouer et dépanner, on va dire, défense centrale pour un match. Mais si on met Konogbia en défense centrale, on met qui au milieu? C'est là le problème aussi, parce qu'on a des blessés, parce qu'on ne sait pas si Verratti va jouer. En fait, c'est ça le problème de l'OM, c'est que c'est un chantier avec les joueurs qui sont partis à la CAN, avec les joueurs blessés, avec les suspendus, avec les joueurs qui ne sont tout simplement pas au niveau. Donc, du changement, on va rien avoir, mais celui qui arrive à trouver le 11 titulaire de l'OM contre Brest, il est fort. Donc, moi, personnellement, je pense que ça sera Clauss à droite, Balerdi avec Konogbia en défense centrale, parce que je pense qu'il ne va pas avoir trop le choix. Merlin à gauche, on garderait le même milieu contre Shakhtar, donc avec Aminarit, Unai et Konogbia. Et en attaque, là aussi, il y a du chantier. Donc, Aubame, parce que c'est le seul qui apporte satisfaction, on va dire. Moumbania, parce que pas trop le choix, et parce que c'est le seul qui peut jouer devant, parce que Ndiaye, il est nul. Et
Il a
je te
marqué
trouve
aussi
assez.
l'année dernière, mon bagnon aussi.
Ouais, mais. Enfin,
Ouais,
voilà, c'est. En fait, c'est. Pas, ça m'enchante pas. Hein. Et je trouve assez méchant avec Enrique Alex. Bon, ce soir, il n'a pas été bon, mais il a fait un bon match contre. Il a fait un match assez correct contre Lyon, alors que toute équipe était nulle. Et je crois que c'était contre Monaco aussi. Il fait un match somme toute correct, donc je pense qu'il va être aligné à nouveau.
du coup, on
Et.
se contente du correct maintenant,
C'est
Alain.
ça le problème, c'est qu'on se contente du correct à l'OM maintenant. Et on se contente d'un joueur qu'on a trouvé trop nul, qu'on a renvoyé dans son club en prêt. Et même eux, ils ont dit non, mais en fait, on vous a escroqué, il est trop nul. Donc tenez, reprenez-le.
Et
C'est
il
un
a
peu
marqué
ce qui
4 buts quand
s'est
même hein, en 30 matchs au
passé avec
Brésil.
Enrique. Mais donc, du coup, voilà, c'est ce 11-là que je pense, que j'imagine. Et si je suis optimiste, je me dis que Marseille, dans un élan de fierté avec les joueurs qu'on a, veut aller à Brest et gagner pour lancer le reste de la saison. Parce qu'après Marseille, quand même, ça enchaîne des matchs. C'est maintenant qu'il faut commencer une série, en fait. Parce que Marseille, ça enchaîne Brest. Après, il y a le retour OVL contre le Shakhtar. Après, ça enchaîne Montpellier, Brest, Nantes, Rennes. Si Marseille doit faire une série de victoires pour remonter un peu au classement,
Et PSG
c'est
Lille
maintenant.
après, hein. Et
Ouais, mais
Nice.
justement, en fait, je me suis arrêté là parce que c'est fin mars et qu'on ne sait pas s'il va y avoir un match de groupe supplémentaire, un match, pardon, d'élimination directe supplémentaire en Coupe d'Europe. Donc, je me suis arrêté là pour ma liste, mais c'est maintenant qu'il faut lancer une série. Donc, si je suis optimiste supporter, je te dis hein, 2-0 pour l'OM. Mais si je suis réaliste défaitiste supporter, je te dis 1-1.
Ok. Moi, je vais, ouais, en termes d'effectifs, hein, que ce soit de l'un côté comme de l'autre, je pense qu'on va quand même retrouver, que ce soit pour Marseille, à peu près le même effectif qu'on a eu ce soir face au Shakhtar. Parce que je pense que, voilà, je pense que Gattuso, il va essayer de mourir avec ses idées, en se disant, j'ai essayé quelque chose, ça n'a pas marché. Maintenant, vas-y, c'est bon, je retourne à ce que j'ai essayé de faire. Et tant pis si je dois mourir avec mes idées, je mourrai avec mes idées. Donc, une défense à trois, à peu près la même compo. Moi, je pense que Chancel devrait être là parce qu'il était avec le groupe aujourd'hui en Coupe d'Europe. Il s'est déplacé avec eux. Donc, je pense qu'il devrait être là en défense pour pallier à l'absence enfin, la suspension de Gigot. Côté, bah voilà, Brestois, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui devrait bouger. Hein. De toute façon, ils ont un match par semaine, donc ils ont le temps de se reposer. Par contre, au niveau du score, moi, je pense je verrais plus une victoire de Brest quand même. Ouais, Brest nul. Je vois pas Marseille gagner. Moi, je verrais plus un Brest nul. Mais je vois une petite victoire de Brest. Allez, 1-0 avec un but de... avec un but de Del Castillo. Ouais. du de la question.
En fait, Chancel, il est revenu, mais le problème, c'est est-ce que physiquement, il sera
Ouais, il
prêt.
sera apte. Ouais.
Voilà, sachant qu'il a beaucoup joué lors de la CAN,
Mais est-ce que
est-ce que
Gattuso a le
Chelsea
choix?
sera apte?
Mais
C'est
est-ce
ça
que
le problème.
Gattuso...
Donc, c'est soit, en fait, tu forces Chancel à jouer en n'étant pas sûr qu'il soit à 100% sur ce match, soit tu descends Kondogbia, mais tu te crées un trou au milieu de terrain. C'est tout le challenge là de Gattuso et je pense qu'il doit se creuser un peu plus la tête que nous pour la feuille de match.
Ok. On va passer au tour des stades. Voilà, on va faire le petit tour des stades de l'ensemble des rencontres de ce week-end après avoir parlé de ces deux gros matchs. Donc, on va commencer par le premier match du vendredi soir qui est mine de rien un gros match, hein, un match dont on aurait pu parler cette semaine. On avait déjà parlé de ces clubs la semaine dernière. Donc, Lyon-Nice. Lyon-Nice, hein, c'est voilà deux équipes qui s'étaient séparées sur un match nul au match aller. Ces deux équipes qui sont aussi, surtout Lyon, sur une très bonne dynamique. Hein. Lyon qui a fait quand même un très gros recrutement pendant ce mercato d'hiver. On a en cherchant des Benrahma pour ne citer que lui, donc qui s'est très bien, voilà, qui s'est très bien renforcé, qui devrait se présenter avec un effectif plutôt complet. Alors certes, il y a l'absence de O'Brien qui est suspendu, donc c'est quand même un défenseur qui a réussi à trouver sa place dans cette dans ce 11 lyonnais. Enrique, Lovren et Tolisso incertains. Du côté niçois, on a Boga et Mossi qui sont incertains, hein, qui reviennent tous les deux d'un très gros match de la CAN, hein, qui est quand même très pesant psychologiquement. Dante qui est suspendu, qui a pris un carton jaune, ainsi que bon bah toujours absent Beka Beka. On le voit, Nice, ils ont quand même plus de mal sur cette deuxième partie de saison. Ils ont du mal à enchaîner les bonnes séries. On voit qu'ils ont de plus en plus de défaites, hein. Ils perdent la semaine dernière face à Monaco quand même 3-2 à domicile. Il me semble que c'est leur première défaite d'ailleurs à domicile de la saison. Ils avaient perdu qu'à l'extérieur pour l'instant. Voilà. Rapidement, un petit commentaire et le score. Alexis, toi ce match Lyon-Nice, tu t'attends à quoi et tu vois quoi comme score?
Moi, je vois un match assez serré et assez ouvert, dans le sens où ça va jouer des deux côtés. Ça va très bien défendre côté Nice, comme d'habitude, comme depuis le début de la saison, et ça va insister côté Lyon. Je vois quand même Lyon avoir un petit ascendant psychologique qui pourrait se retrouver sur le terrain aussi. Donc peut-être une petite victoire de Lyon. En soi, je l'espère pas. Mais oui, je pense qu'ils vont trouver la sauce et que ça a pris et qu'ils vont enchaîner à prendre des points à chaque match, donc que ce soit match nul, soit victoire jusqu'au bout de la saison. Donc je vois ouais, un zéro peut-être, encore une fois.
1-0 pour Lyon.
Pour Lyon, oui.
Bon, ok. Ok. Et toi, Steve?
Moi, je pense que le match va dépendre du facteur X lyonnais qui est le général Lacazette. Est-ce qu'il va être en jambes? Est-ce qu'il va faire un très gros match ou pas? C'est là que va se jouer le match, je pense. Donc, moi, je dirais un match nul 1-1.
Ok. Ok, très bien, très très bien. Bah alors voilà, Nice c'est toujours la même chose. Hein. Nice, dès qu'ils encaissent le premier but, ils perdent. Ça s'est encore confirmé. Hein. Je te l'avais dit en plus, Alexis. Hein.
C'est vrai, c'est vrai.
Ça s'est encore confirmé.
Par contre, ils ont pris un banger. Hein.
Ah ouais.
Le deuxième de Zakaria, c'est un banger.
C'est pas mal. Hein. Il était vraiment pas mal. Mais moi je vais partir sur moi je vais partir sur une victoire de Lyon même si certes il va leur manquer O'Brien qui est assez important en défense mais là ils sont quand même sur une très bonne dynamique et Nice ils ont beaucoup de mal surtout Dante qui est leur capitaine ne sera pas là donc je vais partir sur un 2-1 pour Lyon avec ouais but de on va dire but de Lacazette. But de Lacazette, premier but de Benarama et côté niçois, on va dire un but de Guessant. Lille-Le Havre, s'était rencontré donc au mois de octobre, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, c'est mois d'octobre. Lille s'était imposé 2-0 à l'extérieur. En termes d'effectifs, pas vraiment de gros absents, enfin en tout cas surprenant côté Lillois. On a toujours Diakité, Cavallero, Umtiti et Illich qui seront absents. Côté Havrais, on a Bayo qui est absent, hein, Bayo qui avait quand même fait son retour lors du dernier match et là qui sera absent, hein. Bayo, ça reste quand même un joueur important de cette équipe havraise. Le Havre, pardon, qui a perdu notamment son dernier match face au Stade Rennais, hein, sur un beau but de Bourigeaud, tandis que Lille, eux ont perdu, face au Paris Saint-Germain 3-1, hein, ça a été beaucoup plus difficile pour eux. Alexis, toi, tes pronos pour ce match, Lille-Le Havre?
Moi, je vois Lille à fond, parce que Lille est une équipe qui, depuis le début de la saison, joue bien, mais a toujours du mal à traduire ça sur la feuille de résultats à la fin du match. Ils se prennent toujours des surprises. Et de l'autre côté, Le Havre, eux, c'est une équipe qui ne se distingue pas forcément sur le terrain, mais qui arrive quand même à prendre des points par-ci, par-là. Je sais que je me suis contredit, mais avec mon argument, mais je pense quand même que Lille va garder le dessus sur une équipe du Havre qui, comme tu dis, à quelques absents, et Lille qui s'est plus ou moins, j'ai pas envie de dire qu'ils se sont rassurés, mais contre le PSG, ils ont joué à armes égales pendant une grande partie du match, même s'ils ont rapidement pris un premier but. Mais ouais, pendant tout le match, ils ont espéré, ils ont cru pouvoir égaliser. Après, bon, c'est parti dans l'autre sens. Mais voilà, dans le jeu, ils se sont fait du bien, je pense. Même s'il y a eu des regrets. C'est bien, en fait, de quitter le parc en ayant des regrets, parce que tu te dis que tu es un peu plus fort que ce que tu pensais en arrivant. Donc, je pense que contre le Havre, ils vont pouvoir enchaîner.
Ok. Toi, Steve?
Ouais, moi aussi, je pense pareil, hein, que c'est une équipe lilloise qui va gagner. Peut-être pas facilement, mais correctement contre le Havre. Surtout que le match lillois au parc a été plombé par Ribeiro, qui fait deux erreurs quasi coup sur coup, quoi. En l'espace de 10 minutes, il te fait deux bourdes et tu prends deux buts, quoi. Donc ça plombe le match direct. Comme dirait la vidéo de Kylian, direct, c'était le match. donc je pense que ouais, Lille va gagner 2-0 contre le Havre.
Ok. Ouais, moi aussi, je suis de votre avis, hein, même si c'est vrai que j'aime bien cette équipe du Havre. Lille, ils ont besoin d'enchaîner pour pouvoir justement maintenir le rythme et suivre et même passer devant un Nice ou un Monaco. Surtout si je vois Nice perdant. Donc, moi, je vois bien une victoire de Lille 2-0 avec un but de David, parce que je pense que ça a dû le frustrer de pas avoir jouer face au PSG, en tout cas pas l'avoir commencé, et un but de notre ami Zegrova, donc ouais, je vois 2-0. Nantes PSG qui s'était affronté en décembre, donc le PSG avait...
Il n'y avait pas eu de score, je crois.
T'aimerais, hein, qui s'était imposé 2-1 à domicile, hein, donc voilà, le PSG qui sort d'une bonne prestation, en tout cas une prestation mitigée, mais en tout cas couronnée d'une victoire face à la Real Sociedad. Nantes qui a enchaîné, elle, de son côté, une deuxième victoire en championnat sous l'ère de leur nouvel entraîneur, hein. Donc bon, et puis PSG qui avait gagné face à Lille. En termes d'absence, c'est vrai que côté nantais, il y a quand même encore beaucoup d'absents, beaucoup d'incertains, hein, entre ceux qui revenaient de la CAN comme Moutoussamy, Simons, Simons. On a certains qui sont blessés, que ce soit Ganago, Mupiu, Amiens, Lafond, et on a des retours avec Rémi Descamps, Comer et Augusto. Côté PSG, toujours les mêmes absents longs, donc Kimpembe, Skriniar, Rico, Nuno Mendes qui est toujours en phase de reprise, et le retour de Lee dans le groupe après sa compétition internationale. Alexis, non PSG, tes attentes, ton résultat?
Je m'attends à un gros match. Parce qu'en général, Nantes... Mais si, c'est vrai, je m'attends à un très gros match. Nantes sait bien jouer contre les grosses équipes. On ne sait pas jouer contre les petites équipes. C'est là qu'on perd tout le temps. Mais contre les grosses, on arrive toujours à sortir nos tripes et à les mettre sur le terrain. Et grâce au chant de la tribune noire, ces tripes prennent vie et t'arrachent la gueule. Et voilà. Et je pense que Nantes va nous sortir un gros match ce week-end. Tribune Noire d'ailleurs qui sera encore fermée après ce match, le prochain match contre Metz, encore fermée, hein, toujours des problèmes, mais qui sera ouverte contre le PSG, donc ils vont pouvoir pousser leur troupe jusqu'à la 95e minute. Et à côté de ça, Paris qui est entre deux matchs de Champions League, qui n'auront pas forcément la tête à jouer contre une petite équipe du championnat, qui préféreront peut-être ne pas appuyer sur la pédale d'accélérateur trop rapidement et trop intensément, et puis ils vont peut-être relâcher un peu de lest. Et voilà, Nantes qui va surgir, le Canari de Nantes va surgir et prendre le point du match nul, peut-être du 1-1. Voilà,
1-1. C'est bien, non, mais l'espoir fait vivre. C'est bien.
Avec un peu de kicks, parce que voilà... On aime bien Kicks quand même. Et côté Nantes, Mostafa, le pharaon, il va répondre à Kicks. Il va lui montrer ce que c'est le foot.
Ok, Steve, de ton côté?
Moi, de mon côté, je pense que, comme l'a dit Alex, entre deux matchs de Champions, après, t'enchaînes quand même pas mal de matchs qui pourraient... être un peu plus compliqué pour le PSG, parce qu'après le match contre Nantes, tu enchaînes Rennes, tu enchaînes Monaco, tu as le retour contre la Sociedad, après tu as Reims, Nice. Donc je pense que peut-être Luis Enrique va vouloir pas faire tourner un peu, mais ménager certains cadres en les faisant jouer qu'une petite heure ou en les faisant rentrer justement à la mi-temps. Donc je pense que là est la chance de Nantes, mais je pense que quand même Nantes va prendre son 2-0 et Alex va pleurer.
Je t'entends rire, Destis, c'est pas bien.
Non, mais j'aime bien, tu vois, ton espoir et tout ça, la bonne volonté, il n'y a pas de souci, hein, mais voilà, on va redescendre sur terre.
L'avantage de Nantes, c'est si Colomoisi joue, il y a une chance qu'il marque pas.
Colomoisi.
Hey,
non, mais Colomoisi, il a pas le droit de marquer. Il a pas le droit de marquer à vos joueurs. Il ne sort pas de vos joueurs s'il marque pas.
Il va passer les vrais, t'inquiète. Il va passer
les
vrais.
Si il m'entend, son camp, mon petit colo.
Non, mais sérieusement, non, je vois. Enfin, moi, pour moi, je vois une victoire du PSG. Hein. Je pense que le PSG, là, ils sont.
Quelle objectivité, quand même, hein, de Stissa. On voit le supporter. Hein.
Exactement. Non, mais ils sont en mode. Voilà, ils sont préparés, ils ont des objectifs. Je pense qu'il va être champion si rapidement, c'est des points qu'il faut gratter très rapidement. Luis Enrique a cet objectif en tête. Je vois une victoire du PSG. Allez, 3-0.
Oh, ouais. Oui. Si ce n'est que ça.
Non, mais si Simon avait été là, parce que je crois pas qu'il sera de retour encore.
Non, il joue la finale il y a pas longtemps là.
Ouais, je pense pas. Je t'aurais peut-être dit pourquoi pas. Après, c'est possible qu'il soit là, on sait pas. Hein. On sait pas, Mostafa.
Il y a pas beaucoup d'autres liens, c'est vrai.
Ouais, Mostafa là, mais allez, non, on va être gentil, on va dire 2-0. 2-0 pour le PSG, avec un but de Kylian et un but de Dembélé. Allez, hop, c'est réglé ça. On va laisser peser. Allez, on passe au match du dimanche maintenant. Le bon petit match de 13h, comme on les aime chaque semaine. un bon gros match, un Strasbourg-Lorient. Alors, je suis quand même médisant parce que Strasbourg-Lorient, en ce moment, il se porte beaucoup mieux, hein, que par rapport, enfin, surtout pour Lorient, il se porte beaucoup mieux. Alors, au match aller, Strasbourg s'était imposé 2-1 face à Lorient. En termes d'absence, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'absents côté strasbourgeois. Alors, voilà, il y a je me répète chaque semaine, hein, il y a ces absents longs, mais comme Fila, Motiba, Seba, Dion, Gabriel, en termes d'incertitude, on aurait Delaine et Santos, et les suspendus, on a Sissoko, mais on aura le retour de Doucouré et Kevin Gamero, tandis que côté Lorientais, on aura les absences sur blessure de Boisgard, Benjamin Mendy et Silva. Ceux qui sont incertains seront Katsiris, Louza et Kroupi, tandis que en termes de suspendu, Formose Mendy ne sera pas présent. Mais par contre, on aura le retour de Gédéon Kalulu dans l'équipe nantaise. Et pour vous rappeler un peu, lors du dernier match, Strasbourg s'était incliné face au RC Lens. Alors, Strasbourg n'a pas fait non plus un mauvais match, mais voilà, Lens a été meilleur et beaucoup plus efficace. Tandis que Lorient, lui, de son côté, s'était imposé face à Reims, justement, 2-0, avec notamment un but de Bakayoko. Alexis, toi, ce match, Lorient-Strasbourg, tu t'attends à quoi et à quel type de résultat?
Alors, Lorient, ils commencent à faire leur petit chemin depuis quelques matchs, depuis que les recrues sont arrivées en fin janvier. Donc, ouais, ça a eu trois matchs, match nul de victoire, grâce à leurs recrues seulement. Hein. Donc, Louza, Bamba et Katsiris. Donc, tu disais Katsiris ne jouerait peut-être pas, mais rien que Louza et Bamba, eux deux, ils sont à 4 buts et 2 passes D en 3 matchs. Donc oui, attention à Strasbourg de pas se faire prendre à faire un faux pas en fait, à penser qu'on joue contre le 16e qui a déjà eu 10 défaites pendant la saison, voilà, ça sera facile. Donc oui, juste attention à ça, mais malgré ça, je pense que Strasbourg reste solide et reste sérieux, parce que je pense que Vieira a enfin trouvé le moyen de mettre sa patte et d'imposer sa philosophie. Donc voilà, je vois une petite victoire 3-0 pour Strasbourg.
Ok. Ok, voilà, ok.
Avec un petit but de Gamero pour son retour. Et puis Emega, un doublé d'Emega, s'il vous plaît.
Ok, ok. Toi, Steve?
T'as dit une victoire 3-0 de Strasbourg.
Ouais, il est fou. Oui, oui, non, mais. Juste avant, il a dit nul, non de PSG. Sérieusement.
Pourquoi on l'a invité pour le podcast, lui, déjà?
Parce que vous n'aviez pas de Nantais et de Strasbourgeois.
Parce que le 3-0, donc, le 3-0, je le vois, certes, mais pour Lorient, en fait. Moi, je vois plus Lorient mettre 3 à Strasbourg que Strasbourg mettre 3 à Lorient.
Je pense Lorient, que c'est la pire défense. 42 buts pris, quand même.
Et de très, très loin, mais sur les derniers matchs, la dynamique actuelle veut que Lorient batte Strasbourg et pas le contraire. Strasbourg, c'est une équipe, certes, Patrick Vieira, on voit où il veut en venir, mais il a encore quelques problèmes. Alors que Lorient, ils ont eu les recrues, ils ont fait les recrues qu'il fallait faire. Je pense que Lorient, ça va se sortir là du piège strasbourgeois et gagner, ouais. Peut-être pas 3-0, si j'abuse, et c'est pour faire chier Alex. Mais je vois bien un 2-0 pour Lorient avec un but de Bamba et puis de Louza, tiens, pour te faire plaisir, mon petit Alex. En tant qu'ancien Nantais.
J'aime bien Louza. J'aurais bien aimé qu'il se fasse prêter à Nantes plutôt. Mais bon. J'ai ton maillot d'ailleurs.
Moi, je vous avoue que c'est un match qui est quand même assez serré puisque c'est quand même deux équipes pour moi qui se reprennent assez bien sur cette année 2024, notamment Lorient. Mais moi, je vais partir sur un match nul 1-1. Ouais, moi, je vois pas vraiment. Je trouve que ce match est difficile. J'aurais même envie de te dire 0-0 parce que... ouais, parce que voilà, c'est pas le match, voilà, c'est le match de 13h, voilà, les gens ils sont encore en pleine digestion, donc Ouais, un petit 0-0. Ouais, elle est pareil. Un petit 0-0 des Fafa. Rennes-Clermont qui s'était affronté et qui avait vu la victoire rennaise 3-1 sur Clermont. Hein, donc voilà, Clermont, on connaît les difficultés de cette équipe. En termes d'absence, côté Clermontois, on aurait des... pas beaucoup d'absents, ouais. On aurait Konaté, Mabrouk, Rachani d'absent. Donc, ça va. Côté Rennais, en termes d'absence, on serait surtout sur du Reader, Metatars, Lefebvre, Esquio-Jambier. Par contre, on aurait comme suspendu Kalimuendo, qui fait aussi pareil, un bon début de saison, enfin, une bonne année 2024, et Ildrim. Alexis, rapidement, toi, ton prono et score sur ce match
3-0 pour Rennes. Voilà, il n'y a pas vraiment besoin d'analyse. Je pense que Clermont est clairement en dessous de Rennes et qu'ils vont le montrer sur le terrain. Bon, ouais, 3-0 pour Rennes. Ils n'ont pas perdu depuis 2 mois, quand même. 2 mois et demi, Rennes.
Rennes, ouais, ouais, non, mais
ils ont perdu ce soir.
Oui, ce soir, comme des grosses. Mais bon.
Ouais, ils ont pris une sacrée raquette.
C'est normal, en même temps. C'est le club de Giroud. C'est le club de Giroud, c'est normal.
Ils ont pris leur petite claque, leur petit revers à San Siro, donc ça achète des publicités dans la Gazzetta dello Sport, c'est-à-dire avec l'ambition on peut tout faire et ça prend 3-0. Donc voilà.
On sent que c'est personnel, ça.
si tu nous écoutes, salut Tibbs.
Maxime. Ok, bon, toi du coup, ce match, tu vas quand même pas me dire une victoire de Clermont. Tu vas pas aller jusque-là.
Non, là, je pense que ce week-end, Clermont, ça prend une gifle. Ça prend un score à la Rennais, comme on leur connaît, un bon un 3, 4 ou 5-0, enfin, un bon score. Je peux pas dire exactement, mais je pense que Rennes en met plus de 3 minimum. Okay. Parce que Clermont, c'est en perdition et Rennes vont vouloir un peu se relancer rapidement pour pas laisser le doute s'installer. Et ils ont toutes les armes offensives pour faire très très mal à Clermont. Donc ouais, moi, je vois bien un bon 4 ou 5-0. Ouais.
Ah, surtout que Rennes, ils sont quand même bien remontés. Hein. Ils sont 7e actuellement. Ils ont enchaîné 5 victoires. Ouais, moi, je te suis sur cette logique. Hein. Je pense que Rennes, ils vont quand même s'imposer. Alors facilement, je sais pas, parce que c'est à ces moments-là, quand tu sous-estimes l'adversaire, que tu prend un but sorti de nulle part et tu comprends pas ce qui se passe, mais je pense que ouais, enfin moi je vous suis dans la logique, je vais même dire 3-0 pour Rennes face à ce Clermont, puisqu'on a un Terrier aussi qui est plutôt pas mal, enfin en championnat, en Coupe d'Europe c'était plus compliqué, mais ouais, je vais dire 3-0 pour Rennes. Ouais, je suis gentil. Monaco face à Toulouse. Ça aussi, hein, ça va être un petit match de 15h sympa. Hein. Donc Monaco qui s'était imposé au match aller face à Toulouse 2-1. En termes d'absence, rien de criant. Que ce soit du côté, enfin en tout cas du côté de Toulouse, c'est aussi, on va dire, certains habituels hein, qui sont toujours à l'infirmerie, comme Aboukhal. Alors bien sûr, on aura Genro et Keben qui seront aussi blessés, Soiseau suspendu. Par contre, on aura le retour de Kamanzi. Côté Monaco, toujours les mêmes qui sont blessés, hein, ça, on peut rien y faire, que ce soit Mbolo, Henrique. On a Diatta et Vanderson qui sont aussi qui seront aussi absents. Singo, forcément, qui est incertain hein, par rapport à la compétition qui vient d'avoir lieu. Et les suspendus, Magassa, Golovin et Ben Yedder. Ça aussi, c'est assez intéressant puisque du coup, on verra vraiment une autre composition offensive. Voilà, Alexis, pareil, rapidement, tes attentes, score.
Moi, je pense que Monaco va pouvoir continuer à se rassurer après les quelques bons résultats qu'ils ont engrangés. Donc, la victoire contre Nice, surtout. Et puis, les quelques derniers matchs qu'ils sont bien gérés. Toulouse, de leur côté, c'est un peu plus compliqué, où ils essayent de jouer sur deux tableaux. Cette semaine, ils ont joué avec les tripes aussi pour récupérer un match nul du Portugal. Je pense que ils vont arriver un peu plus fatigués que Monaco, qui joue pas l'Europe. Et ça va se ressentir sur le terrain. Donc, je pense que Monaco va prendre l'avantage, même si, comme tu disais, toute l'équipe va changer, enfin, presque toute l'équipe va changer. Ils vont assurer le minimum. Je vois une petite victoire 1-0 pour Monaco.
Ok. Et toi, Steve?
Moi, je vois un Monaco sans trop forcer 2-0. Parce que cette équipe toulousaine n'est pas très inspirante. Ça joue bien, mais qu'en Europe, parce que justement, ça veut se montrer. En Ligue 1, ça reste relativement moyen, cette équipe toulousaine. On le voit au classement, d'ailleurs. Ça enchaîne les performances contre performances, performances contre performances. Donc, je pense que, ouais, sans trop forcer, un 2-0 Monaco.
Ouais, c'est vrai que Toulouse, voilà, c'est vraiment en dents de scie, c'est même mauvais, hein, qu'ils ont enchaîné défaites, victoires. Aujourd'hui, ils sont 15e. Alors, ils sont dans une position très dangereuse. J'aurais envie de penser qu'ils vont se réveiller et se dire, bah, on a chaud aux fesses, il faut aller chercher ces 3 points. Mais malheureusement, ils tombent face à un Monaco qui, pareil, de son côté, doit aller chercher les 3 points pour, dans un premier temps, ne pas voir Nice s'échapper dans le cas où ils gagneraient, même si moi je pense qu'ils vont pas gagner, mais surtout pas voir les concurrents derrière leur passer devant, que ce soit Brest, Lille ou encore Lens. Donc moi je pense que Monaco va l'emporter, et je pense par contre ça peut être assez sévère, parce que Monaco c'est une sacrée arme offensive, donc je vois bien un petit 4-0 avec on va dire un but, moi je vois bien Minamino à Kliouche marqué, je verrais bien un petit but au milieu de terrain de Fofana et un but de défenseur. Ouais, un petit défenseur qui marquerait. Ouais, un petit défenseur. Je pourrais pas vous dire lequel, mais je vois bien un petit but de défenseur, hein, sur un petit corner. Et enfin, le dernier match pour conclure cette 22e journée du championnat. Montpellier, pardon, face à Metz. Montpellier face à Metz. Alors déjà, en termes d'absent, Montpellier, bah, pareil, hein, il y en a certains qu'on ne voit plus, hein, comme Guéguin, enfin qu'on ne voit plus, qui s'est blessé, Guéguin, Christopher Julien aussi, hein, la voûte plantaire. Côté incertain, c'est des joueurs quand même assez importants comme Moussa Tamari et Fayad. Par contre, on aurait le retour de Bertraud. Côté Messin, peu d'absents. Voilà, Jalot, ischio-jambier et Endoram qui seraient absents du côté Messin. Juste pour vous rappeler, en termes de score au match aller, Montpellier s'est imposé 1-0 face à Metz. Montpellier, c'est une équipe qui a beaucoup de mal en ce moment à garder le score, hein. On l'a vu face à Lyon la semaine dernière, alors qu'ils auraient dû gagner. Enfin, ils perdent ce match, alors sur une très belle frappe de Cacré, hein, qui met un gauche merveilleux, mais ce match ils doivent pas le perdre, ils doivent au moins avoir match nul, hein. Montpellier, une équipe qui a du mal à garder le score, et de l'autre côté Metz, qui a su tirer un bon match nul face à Marseille, pareil, un match qu'ils auraient dû perdre, mais bon, ils ont réussi à conserver ce match nul, mais qui sont 17e actuel. C'est vrai que c'est deux équipes qui sont très mal placées, 14e et 17e, qui n'ont que 3 points d'écart. Alexis, toi, ce match-là, en termes de jeu et de résultats, qu'est-ce que t'en penses?
Quel jeu? Tu m'attends un match de merde. Ouais, non, mais je rigole, mais il m'inspire rien du tout, ce match, bizarrement.
Oui. C'est pas le match le plus sexy, hein.
Non, c'est clair. C'est compliqué, hein, de commenter ce genre de match. Alors, t'as pas envie de dire des choses qui vont blesser certains, t'as pas envie de dire quelque chose de n'importe quoi non plus. Mais je vois un 0-0, en fait, parce que Montpellier, ils ont plus de buteurs, bizarrement. Adams, après son premier mois en Ligue 1, il a plus rien fait. Khazri, il fait plus rien non plus. Mais ça fait longtemps. Caramo, en fait, ils ont des bons noms, mais même Arnaud Nordin, c'est pas n'importe qui non plus. Mais ouais, il marque plus. Il y a juste Savanier qui tient encore un peu son épingle de ses cheveux. Et Metz, c'est pareil. Hein. Ouais, je m'attends à rien en fait. 0-0. Je suis désolé. Ouais. Désolé, j'aurais bien voulu parler beaucoup plus sur ce match, mais j'y arrive pas.
Ok, Steve, t'as peut-être un peu plus à dire, toi.
Ah, mais je suis plein d'émotions et plein d'excitation face à ce match. Franchement, heureusement que c'est pas le match du dimanche 13h, parce que sinon, je pense qu'il y aurait eu 4 viewers sur ce match. Je m'attends à une purge, un 0-0, vraiment nul, ou alors. Un soupçon d'orgueil montpelliérain qui, je sais pas, un TJ Savanier ou un mec qui a pas envie de se faire des cheveux blancs à cause de cette équipe et qui préfère le faire à cause des teintures. Donc je pense que, ouais, soit c'est un vieux 0-0, soit ça devait être 1-0, mais but à la 86-7. Parce que Metz va vouloir verrouiller le 0-0 et Montpellier va pousser, mais ça va être un match nul. Mais j'attends déjà.
Ok. Hein, vous voyez pas un petit là, Mikotadze là, non, Lamkalze là, chauffer un peu le jeu là, non on peut...
Ça fait un mois que j'attends lui, mais
ça va chauffer le banc surtout.
Oh. Ouais, mais c'est vrai que c'est compliqué hein. Là, les deux équipes, ces deux équipes qui sont voilà en difficulté, qui Montpellier, ils ont quand même enchaîné deux défaites de suite. Je pense qu'on sent qu'il, enfin, sans lui en vouloir, mais Der Zakaria, on sent qu'il est un peu sur la fin. Mais je vois bien quand même une victoire de Metz, 1-0. Pas un match sexy, mais une victoire de Metz 1-0. Me demandez pas le buteur, parce que je vois pas trop qui pourrait marquer. Voilà. Ouais, encore, mais ouais, 1-0 de Metz. Eh bien, messieurs, je vous remercie de m'avoir accompagné pour commenter cette 22e journée de la Ligue 1. J'espère que quand même, on va avoir du but, des beaux matchs et un peu d'enjaillement campagne européenne là qui s'est pas passée sur les meilleurs auspices, hein, très peu de résultats positifs entre mercredi et jeudi. Mais on garde espoir. Dans tous les cas... je vous remercie d'écouter cet épisode. N'hésitez pas à commenter, à revenir vers nous si vous avez des suggestions, si vous voulez qu'on discute des matchs ensemble. N'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux, hein, que ce soit X, Threads, Instagram et plus et encore. N'hésitez pas à nous écouter sur l'ensemble des plateformes audio telles que Spotify, Deezer, Apple Music. Et en tout cas, on vous souhaite un très bon week-end de foot et on vous dit à la semaine prochaine pour parler du meilleur championnat d'Europe, du monde et bien sûr de la galaxie.
Stadium Ligue 1, le podcast sur l'actualité du championnat de France de football.